Europe 1.
<rire> 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver comme chaque après-midi dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter et qui va même parfois jusqu'à vous ouvrir de nouveaux horizons. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Qu'entendez-vous exactement par nous ouvrir de nouveaux horizons? Avec vous, je suis sur mes gardes depuis cette invitation à votre soirée de Noël un peu chelou là.
Vous êtes invité, on mettra le Jésus dans la crèche.
Je vous ai dit, je ne mange pas de ce pain là, Stéphane.
Oh Mathieu, faut jamais dire qu'on ne mangera pas de ce pain là. Vous savez, c'est comme Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Moi j'ai Soda Stream à la maison, j'ai toujours de l'eau.
Bon, c'est dommage Mathieu, cet après-midi je vous présente d'heureuses polyamoureuses. Trois dames qui aiment l'amour libre.
Oh, ça me plaît.
À commencer par la révolutionnaire Alexandra Kollontai, qui en pleine révolution bolchevique a réussi à imposer ses idées. Des idées auxquelles elle était fidèle. En amour, en revanche, un peu moins. Ça, vous le verrez. On aura le plaisir d'en parler avec notre illustre invitée qui lui consacre un livre, Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Puis je vous raconte une polyamoureuse qui a inspiré une célèbre héroïne au pouvoir super, au super pouvoir.
Au pouvoir super. On sent une grande connaissance de l'univers des comics avec vous, Stéphane.
Oui, enfin, on dit des super pouvoirs ou des
pouvoirs. Oui, des super pouvoirs, oui.
Oui, mais c'est super d'avoir des super pouvoirs.
D'avoir des super pouvoirs.
Elizabeth Holloway Marston, une vraie dame qui se cache derrière Wonder Woman.
Wonder Woman.
Vous vous souvenez de Wonder Woman?
Ah ben, je me souviens surtout de la musique, hein. Elle est entêtante.
Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une polyamoureuse toute jeune.
Oui, Stéphane, Willow Smith, la fille de Will Smith, qui depuis qu'elle a vu sa maman avouer en direct à la télé que son père qu'elle l'avait trompée et qu'elle aimait aussi les femmes, a trouvé sa voie, le polyamour. Comme quoi, mesdames, trompez vos maris. Pas sûr que ce soit la morale à en tirer, mais je vous brosserai le portrait de cette milléniale assez emblématique de notre époque.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui est censée nous entraîner dans l'intimité des grandes semaines, mais qu'on attend toujours à cette heure de l'après-midi, parce que je sais pas où elle a avalé son goûter, c'est Clémentine Portier-Galtenbach qui doit nous parler de Julienne Marguerite de Ravalais. C'était des amants, mais qui n'auraient pas dû l'être. C'était un amour interdit.
Un amour interdit, ça va être fascinant. Mais où est-elle, Stéphane?
Écoutez, je crois que, justement, elle avait peut-être un 4 à 5.
Un 4 à 5 coquin. Ah, oui. Le polyamour,
ah,
elle
bah
aussi.
Oui. Son mari Emmanuel doit s'inquiéter parce qu'il pense qu'elle est à la radio.
Alors... Emmanuel, si tu nous écoutes, on ne sait pas où est ta femme.
Voilà, exactement. Ouais. Mais elle va arriver. Oui, elle va entrer à terre. Enfin, je ne sais pas si ça se dit. Avec nous également David Castello-Lopez. Alors David, avec vous, on remonte aux origines d'une invention qui fait notre quotidien.
Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, le tennis. En tout cas, c'est simple. Oui. Voilà, des origines du tennis. Et surtout, je vous parlerai un petit peu aussi de l'avenir du tennis, qui n'est pas si rose qu'on pourrait le penser.
Qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes dans le tennis. Ça c'est du gros tissu.
Un petit peu. Parce que depuis qu'on interdit de battre la terre bête.
Ah oui, d'accord. Oui, j'ai cru qu'il nous donnait la vraie raison. Et oui, Stéphane. Oui, oh là là.
C'est une émission qui part bien. Olivier Pouls, on remonte aux origines d'une recette, d'un plat, mets. Bref, aujourd'hui, vous nous parlez des...
Eh bien, je vais vous parler de la pomme parisienne, la pomme de terre parisienne, que l'on doit aussi à un petit ustensile absolument génial. Et puis, je vous ferai faire des pommes parisiennes. On verra si vous avez
une manière de préparer les pommes de terre.
Si vous avez le petit coup de main.
Qu'est-ce que vous appelez les pommes parisiennes?
Vous verrez. Et puis on fera un petit quiz aussi pour... On mélange tout ça, les pommes parisiennes, les pommes noisettes, les pommes dauphines. On fera un petit point là-dessus, sur toutes ces façons.
Moi, je ne participe que des quiz.
Moi, j'ai le polyamour de la pomme de terre. Toutes les recettes de pommes de terre, je les aime.
Elles sont sautées, vos...
On n'a plus le droit, ça, non plus, Stéphane, de dire ça. C'est choquant.
Bah oui.
Vrai. Ah oui, on saute pas les pommes de terre, sauf si elles sont consentantes.
Vous savez qu'il y a des pommes de terre tapées aussi.
Ah oui, les pommes de terre tapées, c'est très bon aussi. Bon. Comme d'habitude, vous le savez, nous jouerons également à Bern to be alive. Le quiz qui oppose Clémentine à Stéphane pour savoir qui est le meilleur en histoire. Et aujourd'hui, Stéphane a de grandes chances de gagner, puisque Clémentine n'est pas encore arrivée. Par forfait. Et tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle était fidèle à ses idées et aimait l'amour libre, injustement oubliée des livres d'histoire, une de plus. Elle a pourtant joué un rôle déterminant pour le féminisme et pour la révolution bolchevique. Stéphane Bern nous raconte l'aventurière Alexandra Kollontai.
Nous sommes au printemps 1917, en plein cœur de la révolution russe, à Kronstadt, une base navale située sur l'île forteresse de Koltlin, à 30 km de Petrograd, la capitale. Sur l'un des vaisseaux de la flotte baltique stationnée là, une vision singulière. Il y a une femme sur le pont. Elle est belle, elle a le port aristocratique, elle est habillée avec élégance. Malgré le tangage et les difficultés qu'elle rencontre à marcher droit, elle garde néanmoins toute sa prestance. Les marins n'y sont d'ailleurs pas indifférents. Pour passer d'un bateau à l'autre et l'aider à franchir les passerelles, ils se disputent le privilège de la porter. L'un d'entre eux, un géant barbu à l'air pas commode, semble d'ailleurs décrocher ce privilège plus souvent que les autres. Il n'a Dieu que pour elle. Et le sentiment semble réciproque. Pourtant, tout sépare ces deux personnages. Elle, aristocrate intellectuelle, femme d'âge mûr, 45 ans. Lui, jeune homme de 27 ans, issu comme beaucoup de marins de la classe paysanne, d'un milieu très pauvre et illettré. Surtout, c'est leur appartenance politique qui les différencie. Elle est une déléguée du parti bolchevique, le parti radical de Lénine, le parti de la classe ouvrière, un parti que les marins, dans leur globalité, n'apprécient guère. En ces temps de troubles, d'ailleurs, alors que vient d'être renversé le tsar Nicolas II et qu'un gouvernement provisoire a pris le relais, aucun bolchevique n'ose s'approcher de trop près des navires. La tension entre les différents bords politiques est trop importante. Mais alors, que fait-elle là? Cette femme bolchevique, cette déléguée du parti, au milieu d'un public censé lui être hostile, elle est en mission. Une mission que lui a confiée Lénine lui-même. Lénine qui aimerait bien rallier la flotte baltique à son armée révolutionnaire, mais qui connaît leur hostilité à l'égard de ses thèses. Alors, il a joué son atout, son nom, Alexandra Kollontai. Oratrice et pédagogue hors pair, elle est l'une des intellectuelles incontournables du mouvement révolutionnaire russe. Elle est brillante, obstinée, intrépide, et ce n'est pas un auditoire de marins inamicaux qui va l'effrayer. À vrai dire, Alexandra Kollontai ne craint pas grand-chose. Elle ne se défile jamais quand il s'agit de s'opposer à l'ordre établi, ni de défendre ses idées marxistes et féministes. Elle n'a pas peur non plus de se prononcer ouvertement pour l'amour libre, la liberté sexuelle et la fin de la cellule familiale. Nous sommes au début du XXe siècle, imaginez donc. Et ces principes, elle les applique sans se cacher dans sa vie privée. Ce marin géant et barbu qui semble avoir piqué son intérêt sur les bateaux de la flotte baltique n'est ni le premier ni le dernier des hommes qui partageront sa vie. Une vie d'aventure pour cette ardente révolutionnaire marxiste bolchevique, émissaire de Lénine donc, féministe et chantre de l'amour libre. Ou en couleur, n'est-ce pas? Et pourtant, rien ne prédestinait cette Russe née à la fin du 19e siècle à professer de telles idées. Alexandra Kollontai est née en 1872 d'un père général de l'armée tsariste, un aristocrate ukrainien, et d'une mère finnoise, fille d'un riche paysan. Alors qu'elle n'a pas encore 20 ans, elle épouse par amour et contre l'avis de ses parents un jeune ingénieur, Vladimir Kollontai, auprès de qui elle mène un temps la vie d'une épouse et d'une mère modèle. Mais cela ne dure guère. Alexandra Kollontai est éprise de liberté. De liberté et de connaissance. Elle qui lit beaucoup et qui désire écrire a conscience des limites de son éducation. Sa condition de femme au foyer, juge-t-elle, n'est guère compatible avec ses ambitions. Dans son autobiographie écrite en 1926, elle explique « J'aimais encore mon mari, mais la vie heureuse de maîtresse de maison et d'épouse devenait pour moi une prison. Il fallait que je m'en aille, que je rompe avec l'homme que j'avais choisi, sinon j'allais m'exposer au danger de perdre mon identité. » 3 ans après son mariage, elle quitte donc son époux et part poursuivre ses études à l'université de Zurich avec l'objectif de s'y instruire à la pensée de Marx. Car, durant ses années de mariage, Alexandra Kollontai s'est liée au cercle révolutionnaire. Comme beaucoup d'autres de son rang, elle se passionne pour les idées nouvelles. En Europe, elle voyage et fait la rencontre de figures politiques. Et peu à peu, Kollontai se fait une place au sein du mouvement révolutionnaire russe. C'est à cette époque qu'elle fait la connaissance, entre autres, de celle qui deviendra une icône révolutionnaire, Rosa Luxembourg, militante socialiste aux idées marxistes radicales, dont on a parlé ici même il y a quelques semaines. Les deux femmes ont un point commun. Leur vision du marxiste ne souffre pas de compromis. Elles sont toutes les deux intraitables et souhaitent une révolution socialiste en profondeur. Mais pour Alexandra Kollontai, ce bouleversement économique et social ne peut se faire sans 2 autres révolutions. L'émancipation des femmes et, plus surprenant, un changement de paradigme dans les relations amoureuses. Pour Alexandra Kollontai, la révolution marxiste doit passer par une révolution psychologique de l'humanité en rupture avec la morale bourgeoise et patriarcale pour permettre justement la libération des femmes. Ses idéaux féministes, elle tentera de les mettre en application tout au long de sa carrière politique. Quand elle intègre le premier gouvernement de Lénine à la suite de la révolution d'octobre en 1917, elle parvient d'ailleurs à en mettre beaucoup en application. Elle participe notamment à l'adoption des lois reconnaissant aux femmes les mêmes droits citoyens qu'aux hommes. Le droit de vote, le droit d'être élu, le droit au divorce, puis plus tard, le droit à l'avortement. Mais pour elle, ce n'est pas suffisant. L'émancipation des femmes doit aussi passer par une révolution des relations entre les sexes. Pour cela, elle théorise un nouvel idéal amoureux, l'amour libre, qu'elle appelle « amour-camaraderie ». Cette nouvelle morale sentimentale ne sert pas juste la cause féministe, elle sert aussi la cause communiste. Selon Kollontai, le principe de fidélité, le mariage qu'elle appelle « captivité amoureuse », ainsi que le lien entre amour et sexualité, correspondent à des idéaux bourgeois et à une société libérale. Un ordre politique et social nouveau nécessite une autre vision de l'amour. Cette vision de l'amour qu'elle applique ouvertement dans sa propre vie aura un effet néfaste sur sa carrière. Des rumeurs courent qu'elle mêle ses relations amoureuses à la vie politique. Sa réputation en souffre. D'autant qu'elle perd peu à peu le soutien de Lénine avec qui, assez rapidement après la révolution d'octobre, elle multiplie les points de dissension, notamment au sujet de la peine de mort, du renforcement de la dictature du prolétariat ou encore de la signature d'un traité de paix avec l'Allemagne. Car son entrée au gouvernement n'a en rien affaibli l'inflexibilité idéologique de Kollontai, ce qui ne plaît guère aux principaux responsables du parti. D'autant que nombre d'entre eux n'apprécient pas les frasques amoureuses de cette personnalité féminine du parti. Peu à peu, elle se retrouve mise à l'écart, puis totalement écartée en 1922. Commence alors pour elle un exil, mais un exil prestigieux. Une carrière de diplomate. En Norvège, au Mexique, puis en Suède. En 1924, son nom fait grand bruit dans la presse européenne. Pourquoi ? Car elle devient la première femme de l'histoire à devenir ambassadrice. Alexandra Kollontai, je suis prêt à parier que désormais, vous vous souviendrez tous de son nom.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Alexandra Kollontai, nous avons l'honneur d'accueillir une académicienne qui nous l'a fait découvrir dans son dernier ouvrage. Bonjour Hélène Carrère-Dancos.
Bonjour.
Bonjour Hélène Carrère-Dancos, vous êtes le secrétaire perpétuel de l'Académie française, grande spécialiste de l'histoire russe, et vous venez en effet de publier Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution, aux éditions Fayard, et c'est votre livre qui nous a permis naturellement d'enrichir notre récit. Les Valkyries sont les guerrières au service des dieux dans la mythologie nordique. Alors, Alexandra Kollontai, en avait l'âme pour vous de cette Valkyrie nordique ?
Oui, elle avait c'était une combattante. Elle a été une combattante toute sa vie. Elle a été une combattante du féminisme. Elle a été une combattante de la révolution. Je voudrais souligner que son féminisme était d'une espèce particulière, que nous avons du mal à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas par rapport aux hommes. Il s'agit pas d'être l'égal de l'homme. Il s'agit de beaucoup plus. Être l'égal de l'homme, ça vaut pas cher. Hein. Ce qu'elle voulait, c'est véritablement que la femme existe par elle-même, pas par rapport à quelqu'un. Et pour cela, il fallait véritablement changer les conditions du monde. C'est cela qui explique le rapport avec la révolution. Et c'est fondamental, absolument. Et d'ailleurs, elle regardait d'assez haut les suffragettes de son époque, qui étaient pour le droit de vote pour les femmes, etc. Ça lui paraissait de la menue monnaie.
Alors, votre ouvrage, il s'ouvre sur un constat. Si Alexandra Kollontai a tout pourtant d'une héroïne du XXIe siècle, personne, ou presque, ne connaît aujourd'hui son nom. Comment vous expliquez ça ?
Ah, très facilement. La mémoire historique est extraordinairement courte, malgré les efforts que vous faites pour la maintenir. Non, mais je salue vos efforts, mais on a oublié ces noms, qui ont été des noms absolument extraordinaires. On a notamment oublié quelque chose, et ça me frappe, qu'il y a eu quelque chose qui s'appelait le Comintern, qui était l'international communiste. Or, Alexandra Kollontai n'a pas seulement défendu ses idées devant le parti bolchevique, et comme elle a défendu ses idées devant le Comintern, quand elle a été en conflit avec Lénine, elle est allée se plaindre au Comintern. Elle a demandé un arbitrage du Comintern. Bon, c'était une figure majeure, vous avez évoqué Rosa Luxembourg, en effet, c'était une figure majeure du mouvement socialiste, mais souvent les visages féminins, on les a oubliés.
C'est vrai.
Comment personnellement vous avez découvert ce personnage? Évidemment, vous connaissez tout de la Russie, mais à quel moment de votre vie, de votre carrière, vous êtes tombé sur ce personnage?
Il y a très longtemps, puisque tous mes étudiants ont entendu parler d'Alexandra Kollontai il y a 40 ans. Absolument, ils me téléphonent d'ailleurs en me disant avec ravissement, enfin, on va pouvoir parler d'Alexandra Kollontai. Bon, moi je l'ai découvert en étudiant l'histoire de la Révolution, elle avait joué un rôle considérable, et puis j'ai lu l'histoire de la Première Guerre mondiale, cette femme a été un des acteurs de la bagarre contre une paix séparée. Absolument. Donc, si vous voulez, elle à tout moment, elle est intervenue. Et tout de même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un personnage extraordinaire, car elle a fait partie du petit groupe de 10 personnes qui étaient aux côtés de Lénine à l'heure où, dans un appartement privé de Saint-Pétersbourg, ils ont décidé de faire le coup d'État d'octobre. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Et la question fondamentale avec Alexandra Kollontai, enfin ce qui rend son personnage d'autant plus extraordinaire, c'est que tous les compagnons de Lénine, sans exception, ont été, au cours des années 30, liquidés par Staline dans ces procès dont on se souvient. Mais, si vous voulez, après les révolutions, ce sont les hommes qui ont été sur le devant de la scène. Je ne suis pas une féministe enragée, ou je serais une féministe du genre de Kollontai, moi. Mais c'est vrai que Lénine, qui s'était servi des femmes, sa mère lui donnait de l'argent, sa femme le traduisait ses textes, sa belle-mère faisait la cuisine, enfin, sa sœur lui servait de courrier. Mais une fois qu'il a été au pouvoir, les femmes n'ont pas été au pouvoir. Alexandra Kollontai est déjà un cas unique, dans la mesure où elle a été ministre. Vous savez qu'elle a été le seul ministre du pouvoir soviétique avant 1964, vous voyez, entre 1917 et 1964, où il y a eu Madame Fourtseva, qui a été ministre de la Culture, et dont on disait en Union soviétique, oh, c'est parce qu'elle a des relations intimes avec Khrushchev. Bon, ce qui est comique. Non, mais c'est pour dire, ça a été la première femme ministre, ça a été la première femme ambassadeur, et ce qui est extraordinaire, je le disais, c'est que Staline a liquidé tous les compagnons de Lénine. Tous les gens qui figurent sur les photos ont disparu. La seule personne qui est survécue, et c'est vraiment un problème historique, c'est Alexandra Kollontai, qui est morte de sa belle mort quelques mois avant Staline. C'est pas lui qui l'a tuée. Et j'ajouterais qu'elle n'a pas commis de saloperie. Voilà, c'est ça qui est formidable. Tous les bolcheviques, et vous le savez mieux que quiconque, Stéphane Bern, dans les procès, ils se sont dénoncés.
C'était horrible.
Ils ont raconté des choses horribles sur eux-mêmes et sur les voisins. Elle a fait des petits arrangements, mais on peut dire qu'elle n'a jamais dénoncé personne. Elle n'a jamais trahi, véritablement. Sa survie, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Ça prouve qu'elle était un personnage assez irremplaçable, même aux yeux de Staline.
Alors, dans votre livre, Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution, vous expliquez que l'amour libre prôné par Alexandra Kollontai lui vaut d'être décrite comme un modèle de dépravation, y compris dans son propre camp, par Lénine notamment. On peut donc être révolutionnaire et conservateur à la fois, ça s'est vu.
Oui, alors je dirais spécialement Lénine. Lénine était assez pudibond.
Ah, d'accord.
Il n'y a aucun doute là-dessus. Il était, au fond, il s'était marié à l'église même. Il avait des idées très, très prudes. Incontestablement, il a fait une entorse à ses idées prudes parce qu'il y a eu dans sa vie Inès Armand, qui a été en quelque sorte la rivale de Kollontai, enfin, comme personnage, par la dimension et tout, avec une différence, c'est qu'Inès Armand est morte extrêmement tôt. Elle a été balayée par le typhus et par conséquent, je dirais cyniquement que ça a arrangé Alexandra Kollontai, qui, de son côté, regardait avec un œil critique le ménage à trois que représentaient Lénine, sa femme et Inès Armand, même si c'était très compliqué. Jusqu'où ça allait, personne n'en sait rien. L'histoire est compliquée. Mais Lénine, lui, trouvait que la prédication antifamiliale d'Alexandra Kollontai, ça aussi, ça le choquait. Il disait, pourquoi voulez-vous détruire la famille? Au fond, il avait une idée de la Révolution qui conservait tout de même des structures et un mode de vie tout à fait traditionnel, c'est certain. Et il la regardait comme si elle était un phénomène. Alors, je voudrais dire que vous avez évoqué tout à l'heure le principe de l'amour camarade d'Alexandra Kollontai. C'est quelque chose de très intéressant, parce que ce n'est pas un camarade copain. C'est le camarade, c'est le mot communiste, c'est le camarade de combat. C'est-à-dire qu'au fond, l'amour, celui qui mérite d'être vécu, c'est celui qu'on partage avec quelqu'un qui partage exactement votre combat. C'est ça qui est important. C'est pas un copinage.
Elle l'appliquait dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle n'avait des aventures qu'avec des gens qui partageaient son combat politique.
Oui.
Elle pouvait pas avoir d'autres.
Ah ben tous les hommes de sa vie ont été des hommes qu'elle a rencontrés sur le terrain, sauf son mari, si vous voulez. Mais à part le mari qu'elle a quitté très vite, les hommes qu'elle a rencontrés, le premier qui au fond qui s'est introduit dans sa vie après, enfin en même temps que le mari qu'on appelait le bonhomme, qui a partagé la vie du couple Kollontai, on l'encourageait dans ses travaux. Puis elle rencontre un homme qui s'appelle Maslov, qui était menchevique, qui était un économiste menchevique que Lénine n'aimait pas, évidemment, parce qu'il était opposé aux idées de Lénine. Et c'est pour ça qu'elle a eu une première phase, probablement, parce qu'elle était très jeune, une phase plus proche des menchéviques, c'est-à-dire de la frange plus modérée, qui ne suivait pas Lénine. Et puis après, elle a basculé du côté de Lénine, pas parce qu'un homme l'en a convaincu, mais parce qu'elle a pensé qu'il fallait une révolution radicale. C'est pour ça qu'elle l'a suivi.
Et donc après, elle ne couchait qu'avec
voilà.
des radicaux.
Et après, elle a rencontré Chliapnikov à l'enterrement des Lafargue, un autre jeune homme qui était plus jeune qu'elle, de 17 ans.
Hein. Elle a... Ah, ça conserve, hein. Il faut toujours être avec des gens beaucoup plus jeunes.
Oui, mais justement...
Elle aimait ça. Ouais.
C'est pas ça, c'est que ces jeunes gens étaient tellement éblouis par elle. Ouais. Oui. Ça s'est passé dans ce sens-là. Ce sont eux qui se sont précipités sur elle.
Mais dites-moi une chose, Hélène Cardan-Cossier, il y a une chose. Vous pensez qu'elle a été écartée par Lénine à cause de cela? Parce qu'elle faisait peur avec sa radicalité féministe?
Vous savez, c'est très compliqué, parce que Lénine savait qu'il avait besoin d'elle. Il a eu besoin d'elle tout de même pendant la guerre, quand elle est partie aux États-Unis. Elle est allée faire des conférences où elle défendait les thèses de Lénine, c'est-à-dire qu'elle disait aux Américains... Et puis, n'entrait pas en guerre. Parce que, pour Lénine, il fallait véritablement que la guerre s'arrête et qu'on fasse la révolution. Bon. Donc, elle propageait les idées de Lénine. Ensuite, si vous voulez, elle s'est opposée à lui et sur la paix séparée. Et elle s'est opposée à lui, surtout, comme vous l'avez dit, sur la dictature que le parti exerçait sur le prolétariat pour l'opposition ouvrière. Et là, elle s'est battue avec un autre homme de sa vie, Chliapnikov, qu'elle avait rencontré dans un cimetière à l'enterrement des Lafargue. Alors je vous signale d'ailleurs qu'à cette occasion, Jaurès avait parlé, et Dieu sait que le grand orateur de ce siècle, c'était Jaurès, et elle a parlé, et on l'a appelée Jaurès en jupon. C'est dire ce qu'était l'art oratoire chez cette femme. C'est pour ça qu'on l'a appelée comme ça. D'une certaine façon, les témoignages disent qu'elle a presque éclipsé le discours de Jaurès. Car elle s'adressait aux auditoires, quand elle était aux États-Unis, elle pouvait faire 5 conférences dans la journée, une en allemand, un public allemand, une en russe, un public russe, une en anglais, un public anglais, et elle passait de l'un à l'autre avec une aisance. Combien d'orateurs pouvaient faire ça? Presque personne.
Personne. Elle milite pour l'émancipation des femmes, et ça passe notamment par le refus de se plier au destin de mère et d'épouse. C'est quoi sa vision de la maternité?
Sa vision, elle était très simple, c'est-à-dire, elle estimait qu'une femme avait le droit d'avoir une vie sentimentale, qu'elle avait le droit d'avoir des enfants, mais que les enfants, ça ne devait pas peser sur son destin. Et je dirais que là aussi, c'est pas le féminisme actuel, on dit au mari, tu feras la vaisselle, tu feras ceci, tu feras ça. Pas du tout. Elle estimait qu'une femme qui met un enfant au monde, elle donne à la société un sujet qui vient grandir sa population, et par conséquent, c'est à l'État, c'est à la société, c'est-à-dire à l'État, de s'en charger. Cette conception était extrêmement intéressante d'une certaine façon. Ça annonce les kibbutz, parce que ce qu'elle propose, ce qu'elle entendait... Bon, la mère mettait son enfant au monde, elle l'allaitait pendant les quelques semaines nécessaires, et puis ensuite, l'État le prenait en charge, l'éduquait, le nourrissait, il y avait dans les immeubles... Mais la mère n'était pas séparée de son enfant, d'ailleurs, pour autant. Elle vivait avec lui, mais il y avait la cuisine collective, l'éducation collective... C'est un peu le principe des kibbutz. Et ça, c'est très remarquable. C'est-à-dire que elle voulait que la femme dise avoir à la fois sa liberté totale pour s'épanouir, qu'elle choisisse l'homme que s'il lui va, il lui va, la camaraderie cesse, on se sépare, ça n'a aucune espèce d'importance. Elle disposait complètement de son temps. Et elle avait en plus le bonheur d'avoir des enfants, mais aucune charge.
C'est tout à fait révolutionnaire. Une autre question, Hélène Cardan-Cossier, elle est écartée, elle est devenue ambassadrice.
Oui.
Ce qui était une première aussi pour une
femme.
On n'a
jamais vu.
On n'avait jamais vu une femme.
Absolument.
Ça l'a un peu protégée aussi, en quelque sorte,
oui.
parce qu'elle était loin.
Si vous voulez, on l'a écartée, mais elle-même, elle a senti que les choses tournaient mal. Et au fond, Elle a vraiment demandé qu'on lui donne un poste quelque part. Enfin, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour partir à l'étranger, parce qu'elle a compris. Pour ça, si vous voulez, elle était très intelligente.
Ah oui, elle avait l'air aussi.
Beaucoup plus que la plupart des bolcheviks qui ont cru qu'ils pourraient s'arranger. Mmh. Elle a vu le danger. Et à partir de ce moment, elle s'est dit, on va ailleurs. D'ailleurs, elle a été tellement maligne que dès que son fils est devenu adulte, elle l'a fait venir à l'étranger aussi. Elle lui avait fait faire des études d'économie et donner des postes économistes à l'étranger. Mmh. Bon, elle a su, si vous voulez, composer avec le système. Mmh. Et elle a donc eu des ambassades. Elle a été d'abord dans une ambassade nordique. Ensuite, elle est allée au Mexique où elle n'a pas supporté cela parce que le climat ne lui convenait pas. Elle avait tout de même un cœur fragile. Et elle est revenue en Norvège. Bon, elle adorait les pays du Nord. Elle y était très, très bien.
Visiblement, elle préférait le froid.
Oui, et puis, je dirais, c'est les monarchies. Il faut aussi tenir compte de ça. Oui. Quand elle a présenté ses lettres de créance au roi de Norvège, tout de même, ça avait de l'allure.
Oui.
Et il faut se souvenir que le jour où Staline a reçu le roi d'Afghanistan, on l'a fait revenir de son ambassade parce qu'on a dit qui est capable de recevoir le roi d'Afghanistan et la reine d'Afghanistan. Qu'est-ce qu'il sait faire chez les bolcheviks? Alexandre Kollontai. Alors que tous ces bolcheviks au pouvoir avaient des femmes.
Oui.
Mais personne ne paraissait digne de
ça. Hein, comme quoi. Merci. Écoutez, vous nous avez ébloui, chère Hélène Carrère-Dancausse, avec ce destin extraordinaire d'Alexandra Kollontai. Je rappelle donc le titre de votre livre, Alexandra Kollontai, la Valkyrie de la Révolution, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, j'ai beaucoup parlé. Hein, mais...
voilà. C'était le but.
C'était l'idée.
Voilà.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est une édition très particulière du quiz Bern to be alive aujourd'hui qui oppose normalement Stéphane Bern à Clémentine Portier-Caldelma qui, hélas, n'est toujours pas arrivée.
Oui, mais parce qu'elle a déjà gagné par forfait.
Alors, c'est une option, c'était une possibilité. Oui. On en a débattu au plus haut niveau hiérarchique de cette émission. Il a été décidé que vous affronteriez finalement deux historiens exceptionnels, unis contre vous, David Castello-Lopez et Olivier Pouls.
D'accord.
Ils sont gavés de viande, ils sont chauds, bouillants. On va jouer, les amis, à Bern to be alive.
Allez,
attention,
je relève le défi.
Attention, les amis, cette fois, c'est un vrai quiz.
Bah
c'est
oui,
pas
oui,
le
jeu
qu'on fait l'émission.
Peur,
là, c'est un quiz d'histoire. Question numéro 1 pour Stéphane. On commence toujours par Stéphane.
Oui. Ça.
Depuis deux ans, maintenant, dans Historiquement Vôtre, on a souvent évoqué la flamboyante Joséphine Baker. Vous avez fait son portrait ici, admirablement. On a parlé de son rôle dans la Résistance, de son répertoire enjoué, de sa tribu arc-en-ciel. Elle a adopté 12 enfants de pays différents, on le sait. On peut dire que Historiquement Vôtre n'y est pas pour rien dans son entrée au Panthéon. Une question demeure. Est-ce que Joséphine Baker a connu les airbags? Oui, bienvenue dans Bern to be alive.
Alors, je sais qu'elle est morte en avril 1975. Les voitures en 1975 n'étaient pas équipées d'airbags.
Ouais, enfin...
Alors attention, l'idée, Clémentine Portier-Caldelma-Kizé, c'est-à-dire que vous aidez Stéphane.
On peut l'embrouiller
aussi.
Il nous embrouille à tous les coups quand lui nous fait la lutte finale.
Stéphane, je vous aide aussi, Vous avez donné une... Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose de vrai, c'est qu'elle est décédée en 1975. C'est tout à fait vrai.
Et que les voitures à cette époque n'étaient pas encore équipées d'airbags. Mais peut-être que l'airbag avait déjà été inventé.
Moi, je me souviens d'une BD de Gaston Lagaffe.
Vous vous souvenez d'un épisode de Gaston Lagaffe où il y a des airbags?
Où il y a des airbags, et je pense...
Précise en tout cas que nous ne parlons pas de l'invention de l'airbag, mais de l'airbag dans une voiture.
Bah, s'il était inventé,
série.
De série.
Oui, de série.
Pas
voiture. Non, pas un prototype. Ma question. 1975.
Non, 1975...
Vous répondez.
Il n'y avait pas d'airbag dans les voitures en série.
Joséphine Baker n'a pas connu l'airbag.
Non.
Vous avez perdu.
Bienvenue les amis dans Bern to be Alive. Le quiz qui porte bien son nom.
Aux États-Unis, il y avait déjà des airbags.
Mais évidemment, aux États-Unis, Stéphane.
Ah mais je pensais en France.
Les premiers airbags sont montés sur des Cadillacs en 1973.
Ah non.
À deux ans près, vous avez perdu.
Ouais,
si on avait su qu'on était capable de battre Stéphane Bern.
Attendez, pour l'instant, vous n'avez pas répondu à une question.
J'ai pas marqué le point, mais vous n'en avez marqué aucun.
Pour l'instant, c'est toujours 0-0.
Je vais me venger. Okay.
Question numéro 2 pour vous, messieurs. L'année 1900, c'est l'année où le waterpolo fait son entrée officielle aux Jeux Olympiques. Pas de chevaux quand on joue au waterpolo. Alors que quand on joue au polo, vous le savez, il y a des chevaux. Ça s'explique parce qu'au début du water polo, on jouait sur des tonneaux sur lesquels on avait collé de fausses têtes de chevaux et on frappait la balle avec un maillet. Vrai ou faux?
Au water polo.
Au water polo.
On frappait
polo.
La balle avec, la, avec un maillet.
Avec un maillet.
En fait, water on flottait sur des tonneaux et on... Non, je crois... Enfin,
ah, on flottait sur des tonneaux. Ah.
On flottait sur des tonneaux qui étaient censés représenter les chevaux et on... Mais ça, ça roule un tonneau,
ouais,
c'est pas stable, c'est impossible.
Ça me paraît pas possible du non. tout. Ça non. me paraît pas possible du tout.
Mais par contre, l'idée de jouer qu'une balle dans l'eau, ça c'est plutôt séduisant.
Si elle flotte, ouais. Ça me paraît complètement...
Absurde.
Absurde.
C'est plutôt Interville, ça.
Ouais, tout à fait.
C'est plutôt Guy Lux. Donc, ouais. Votre réponse, c'est que c'est
faux.
C'est bien ça.
La question, c'est
pour ça qu'il faut dire.
Oui.
Le water polo s'appelle comme ça parce qu'on était sur des tonneaux, tout ça, machin, et qu'on tapait la balle avec un maillet. Ça, c'est faux.
On est d'accord.
Voilà.
C'est faux.
Vous avez perdu.
Bienvenue, vous aussi, dans Berne Bialab, le quiz où vous redécouvrez l'histoire sous un jour nouveau. C'est comme ça qu'on jouait au waterpolo en 1880 en Grande-Bretagne. Oh, oui. Puis cette formule a été totalement abandonnée, étrangement, pour prendre la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Plus simple, on est dans l'eau, on se monte les uns un peu sur les autres, et on envoie la balle au fond des filets. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Le fisc, ne sursautez pas, le fisc vient d'un panier d'osier servant à presser le raisin. Vrai ou faux, le beau fisc?
J'en ai jamais vu dans les vignobles.
Pourtant, en revanche, les contrôleurs du fisc, vous en avez vu?
Non, pas trop, mais des vignobles, oui.
Tout ça vient, la fiscalité, le fisc.
Vous ne vous êtes jamais posé la question?
Non, jamais.
Non,
jamais.
Forcément, quand on a tout au Luxembourg.
Non, j'ai rien au Luxembourg.
Et j'aime, vous savez, contribuer
votre
à cette
cœur,
légende.
Mon cœur, mais...
Seul votre cœur.
Et ma famille, mais... Non, ça n'est pas monnayable. C'est tentant parce que ça voudrait dire une sorte de tamis comme ça. Mais
moi, ça me paraît.
Mais ça paraît fou. Non, je dirais non. Non, c'est faux.
C'est faux.
Vous avez encore perdu.
Je désespère de vous. Hein. Ouais, il suffit aussi. Que Clémentine ne soit pas là. Un être vous manque et les neurones sont dépeuplés. Hein. C'est incroyable quand même.
Vous
c'est
le saviez,
faux. Évidemment que je le savais. Puis il suffit de réfléchir. Ça vient de fiscus en latin. Fiscus, c'est un panier qui est rapidement devenu celui dans lequel on mettait l'argent des impôts après le raisin. C'est logique.
Mais oui.
Mais pour le presser le raisin ou pour le transporter? Parce que je ne pas très bien presser le raisin.
Pour mettre le raisin, tout simplement, je pense plutôt. Impôt vient de imponere, qui a donné... Imposé. Ça rappelle le caractère rarement volontaire de ceux qui doivent payer l'impôt. Question numéro 4.
Je me sens comme l'équipe de France avec les pénaltys, là.
Alors, c'est une séance de tir au pénalty, mais nul ou personne ne marque son pénalty. C'est très rare, hein, comme séance de tir au pénalty. Question numéro 4 pour vous. Alors, attention, messieurs. En 1935, le Mauna Loa est un volcan d'Hawaï. Il entre en éruption. Comme la lave se dirige dangereusement vers la ville de Hilo, on cherche une solution. On la trouve en demandant à l'armée américaine de bombarder le volcan. Et le pire, c'est que ça a marché. Le volcan s'est arrêté grâce à 270 kilos d'explosifs. Vrai ou faux?
Alors moi, je...
Cible.
Le truc, c'est que je pense qu'il y a un truc avec un avion, c'est sûr. Mais est-ce que c'est des explosifs qu'ils ont largués ou du sucre?
Mais, parce que s'ils ont bombardé le cœur du volcan, ça s'est peut-être écroulé et ça a bouché le trou, en fait.
Oui, ou alors ils ont fait s'écrouler des falaises sur le passage de la lave. Moi, je dirais, on dit que c'est vrai.
C'est pas mal, oui. Moi, je trouve c'est assez crédible.
Alors, disons que c'est vrai.
C'est vrai.
Vous dites vrai.
Vrai. Ouais.
Vous avez... Vraiment, je suis désolé pour vous, encore perdu.
Mais c'est pas possible.
C'est le 100% lose aujourd'hui, cette édition du quiz. C'est faux. Tout est
on
vrai.
On passera plus mais jamais.
Mais n'étiez pas loin.
Parce que c'est pas explosif, c'est
tout est vrai. Non, tout est vrai dans ce que je dis, sauf le fait que le volcan s'est effectivement éteint à cause des explosifs. Le but, les explosifs ont été lancés. Le but était de détourner la lave. Ça n'a pas marché, mais fait du hasard, l'éruption s'est arrêtée.
Mais c'est ce que je disais à la fin. Ils ont fait une falaise, ils ont détourné la lave, mais j'avais oublié la partie.
Je veux dire, David, vous réfléchissez trop pour ce quiz. C'est un quiz où il faut vraiment aller comme ça spontanément sur la réponse. Question numéro 5, c'est ma question préférée, celle qui vous départage.
Dans la nullité.
Alors, trois propositions. Il faut bien attendre que j'ai énoncé toutes les propositions avant de me dire 1, 2 ou 3. Vous donnez le numéro, ça permet d'aller plus vite.
D'accord.
Et il faut que vous accordiez sur ça va être compliqué ça. Il faut que vous accordiez.
Mais si chacun de nous deux donne un chiffre différent, ça nous fait plus de chances de gagner.
C'est vrai.
Oui,
c'est
comme ça serait assez désavantageux pour Stéphane, mais on va faire ça. Question numéro 5. J'ai trouvé une nouvelle perfidie, je suis content. Lionel Jospin, Stéphane. Regretté Lionel Jospin, même si c'est bien.
Il va bien.
Oui, sûr. Lionel Jospin a chanté dans une émission de Patrick Sébastien. Jacques Chirac y a été interviewé par la marionnette Tataillé. Et aujourd'hui, quelle dernière chanson vient de sortir l'ex-sympathique présentateur du plus grand cabaret du monde, Patrick Sébastien. Je vous interroge donc sur la, parmi les possibilités que je vous donne, la véritable chanson signée Patrick Sébastien.
Sa dernière en date.
La chanson des grenouilles où il faut pas lui casser les... La chanson de la bronchite, parce que t'as pas couvert ta... Ou la chanson à chanter dans la rue où tout le monde montre son...
1, 3,
2...
Eh bien, Pulse et David ont le sourire et ils ont tort, car c'est Stéphane
Bern. Non !
Eh oui, on écoute cette chanson, la chanson de la grenouille.
Mais parce qu'il connaît Patrick Sébastien.
La chanson des grenouilles. J'aime pas le mauvais temps quand ça
mouille.
J'aime pas le gratin sur les bouilles. Et puis bien évidemment, j'aime pas qu'on me casse les couilles.
Ah Stéphane, ça permet de mieux connaître votre... vos goûts musicaux, ouais. Cette émission, on découvre un peu un autre, ouais. Stéphane Bern.
Oui,
il parle toujours de Lully, puis finalement Patrick Sébastien, la grenouille.
Comme vous tout le monde dans les mariages,
oui.
On commence toujours par une valse et on finit avec
des serviettes.
Même dans les mariages princiers ?
Bah oui, toujours.
Ah. Non.
Ah
non,
là, non. Que le. Voilà. Putain, mais quel.
Donc vous êtes venu. Vous avez dépanné, vous vous êtes humilié. Ça fait plaisir, merci messieurs. Vous êtes relevés de vos fonctions.
Alors, on en est où de Clémentine ? On n'a plus de nouvelles.
On a une info sur Clémentine ? Son mari doit être inquiet, hein. D'ailleurs, une alerte enlèvement est lancée. Stéphane, la petite Clémentine Portier-Keldenbach est toujours introuvable.
Introuvable, en tout cas dans les locaux d'Europe 1. Elle est peut-être dans les bras de Morphée ou d'un autre. Et alors, bon, comment vous la décrire ? Écoutez, les lunettes et la coupe de cheveux de Nana Mouskouri.
Oui.
Des robes qu'on peut dire légères. Et
peut-être sorties d'un autre âge aussi.
Un peu surannées peut-être.
Ah oui, vous trouvez ?
Bon, je sais pas. Ouais.
On essaie d'être le plus proche de la description
Elle est pleine de vie et d'appétit.
Oui. Oui. Hein. Oui, c'est pas quelqu'un qui sera silencieux forcément.
Non, voilà.
Vous la repérez peut-être au son.
Voilà, elle parle. Et si vous, alors je suggère, si vous prenez des choses Napoléon que vous avez autour
c'est
de
ça.
Vous.
Hein,
bon, tout le monde n'a pas un Napoléon Nord.
Tout à fait.
Mais essayez d'avoir un t-shirt Napoléon.
Ou essayez de la pâter avec le cocktail, la mandarine Napoléon.
Voilà, exactement. Oui. En tout cas, dites Napoléon et vous allez voir, elle va se retourner.
C'est un apo. C'est comme un, c'est ça. C'est... Napoléon.
Napoléon.
Napoléon. Napoléon. Napoléon. Napoléon.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et si vous sentez une vague de chaleur vous envahir, c'est normal. D'une part parce que la voix de Stéphane Bern, le Barry White percheron, vous émoustille.
Je vais retirer ma ceinture.
Non Stéphane, n'allez pas trop vite en besogne, on a encore une heure à tenir. Non, il y a votre voix qui nous excite, il y a aussi notre thème.
Oui Mathieu, même si le but est surtout de comprendre qui étaient ces dames qui aimait l'amour libre. Aujourd'hui, on réunit d'heureuses polyamoureuses. Après la révolutionnaire Alexandra Kollontai, dont nous avons eu le bonheur de parler avec l'académicienne Hélène Carrère-Dancausse, je vous raconte Elizabeth Holloway Marston. Son nom ne vous dit rien ? En revanche, le personnage qu'elle a inspiré vous est plus familier, Wonder Woman. Wonder Woman, Wonder Woman. C'est son mari qui l'a créé. Son mari avec qui elle vivait, avec une autre jeune femme aussi. Ah, vous verrez, ah, c'est beau l'amour. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai de Willow Smith, dont j'ai deviné qu'elle était la fille de Will Smith.
Votre capacité de déduction me surprendra toujours, Stéphane. Oui, Willow est jeune, Willow est amoureuse, mais elle non plus, pas que d'une seule personne. Vous verrez, Stéphane, chez les millennials, aimer une seule personne à la fois, c'est limite ringard. Il y a vraiment qu'un boomer pour avoir une idée aussi saugrenue.
Alors, je ne sais pas quelle est leur vie amoureuse, mais en tout cas, ils sont là, ce sont nos chroniqueurs. David Castel-Lopez qui nous raconte les origines d'une invention française, je crois.
Hein. Non, raté Stéphane.
Il y a des ancêtres en France, mais non, c'est anglais, mais je vous le dis, je vous en dis
plus. Le tennis, ça vient de tenez.
Ce n'est pas sûr non plus.
Ah mais là, je perds tous mes repères s'effondrent.
Je vous raconterai l'histoire du tennis et je vous raconterai aussi l'avenir du tennis qui est peut-être moins rose qu'on ne croit. Je répète ma phrase du premier semestre.
Mais oui, mais c'est pas grave, vous savez, il faut comme ça
faut marteler les choses. Idées auxquelles vous êtes fidèles. Avec nous, Olivier Pouls également, pour parler d'une recette.
Oui, moi je suis un inconditionnel du tennis, mais aussi de la pomme de terre qui se décline sous mille façons. Et je vais vous parler d'une recette et d'une manière de préparer la pomme de terre, les pommes parisiennes.
les pommes parisiennes. Enfin, qui terminera justement dans les pommes à l'issue de la lutte finale, le deuxième quiz de cette émission qui donnera une deuxième chance finalement à David et Olivier de ne pas être ridicules, puisque ça a été le cas dans notre premier quiz tout à l'heure. Mais tout de suite, notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Une longue chevelure noire, des yeux azur, un lasso, un bustier rouge et doré et un short bleu étoilé. Vous l'aurez reconnu.
Sonia Mabrouk.
Mais non, Stéphane, une autre super-héroïne, Wonder Woman. Si la célèbre guerrière Amazon est un personnage de fiction, elle a été inspirée par une femme bien réelle, une super-héroïne moderne et une polyamoureuse qui aimait l'amour libre. Stéphane Bern met sa cape et son fuseau pour nous raconter Elizabeth Holloway Marston.
You must now tell the truth. You are working with the Falcon, and he's working for the Nazis.
Saison 1, épisode 7 de la série télé américaine qui fait sensation cette année 1975, Wonder Woman. Sous les traits de Linda Carter apparaît à l'écran une Amazone au corps sculptural. Elle est vêtue d'un juste corps qui laisse peu de place à l'imagination. Le corset est rouge, cerclé de ronds couleur or au niveau de la poitrine. Le short est bleu, parsemé d'étoiles blanches, les couleurs de l'Amérique, bien sûr. Sur la tête, elle porte un diadème en or. Ses poignets sont habillés de larges bracelets. Ses cheveux sont lâchés en une superbe crinière noire. Elle est à la poursuite d'un fugitif, un espion à la solde des nazis. Pour l'attraper, elle a une arme bien à elle, un lasso qu'elle lance avec adresse dans sa direction. L'homme est stoppé net dans sa course. Pratique, hein, ce lasso. Surtout qu'il cache un pouvoir bien utile. Ce n'est pas un lasso ordinaire, c'est un lasso de vérité. Il contraint toute personne, et en étant prisonnière, à dire la vérité lorsqu'on l'interroge. Et si je vous disais que cette super-héroïne, ses pouvoirs et même son lasso de vérité sont inspirés d'une femme, bel et bien réelle?
Non.
Nous aussi, ici, on dit la vérité, je vous assure. Le personnage de Wonder Woman s'inspire d'Elizabeth Holloway Marston, avocate et psychologue américaine, et qui n'est autre que l'épouse de celui qui a créé le personnage en 1941, le psychologue et scénariste de comics William Moulton Marston. Pour inspirer un tel personnage à son mari, me direz-vous, il devait s'agir d'une sacrée boue de femme. En effet, Elizabeth Holloway était tout sauf une femme ordinaire et à plus d'un titre. D'abord, bon, elle était brillante, une académicienne triplement diplômée. Ce qui, pour une femme née en 1893, est pour le moins exceptionnel. À l'époque où elle fait ses études, il est encore très rare qu'une femme n'ait ne serait-ce qu'un seul diplôme universitaire. Alors trois, vous imaginez. Au cours de sa carrière, elle assumera d'ailleurs plusieurs postes prestigieux, dont celui de rédactrice en chef pour Encyclopædia Britannica, par exemple, ou pour le périodique féminin McCall. En parallèle, elle participe également à plusieurs projets de recherche scientifique. L'un d'entre eux, conduit par son mari, nous intéresse tout particulièrement parce qu'il est à l'origine de l'idée du lasso de vérité de Wonder Woman. Oui, car ses travaux ont débouché sur l'invention d'un dispositif aux caractéristiques quelque peu similaires au lasso de vérité de Wonder Woman. Vous devinez ?
Ben non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ben, il s'agit du polygraphe. Incroyable, mais le créateur de Wonder Woman est également considéré comme l'un des inventeurs du détecteur de mensonges. Appareil qui mesure la pression artérielle pour déterminer si une personne dit ou non la vérité. Différence de taille néanmoins, en tout cas pour celui qui est interrogé, l'impact n'est pas le même quand c'est une guerrière amazone qui vous y soumet que quand l'interrogatoire se déroule dans le cadre d'une enquête judiciaire. Quand je dis que l'impact n'est pas le même, je parle bien sûr du plaisir. Voilà un autre aspect commun entre Elizabeth Holloway et son double fictif. Le plaisir coupable d'attacher et d'être attaché. Si vous connaissez le personnage de Wonder Woman, vous savez sans doute que Diana Prince a un point faible. Elle perd ses pouvoirs lorsqu'elle est pieds et poings liés. Ce qui donne, dans les premiers exemplaires du comics, beaucoup de scènes assez cocasses. Pour ne pas dire coquines. Une femme dénudée, habillée de manière ultra sexy, solidement entravée par des cordes, parfois allongée sur une table. Cet aspect aussi est inspiré d'Elizabeth Holloway, du moins du couple qu'elle formait avec William Moulton Marston, un couple pour le moins insolite et aux mœurs sexuelles ô combien libéré.
Ah, nous y voilà.
William Marston, le mari d'Elizabeth Holloway et le créateur du personnage donc de Wonder Woman, n'a jamais caché son admiration pour l'esthétique fétichiste et le bondage. Selon toute vraisemblance, ce penchant pour le sadomasochisme s'exprimait aussi dans la vie sexuelle du couple. Du couple, ou devrais-je dire, du trio amoureux. car derrière le personnage de Diana Prince se cache également une autre femme bien réelle, elle aussi. Depuis 1925, soit 15 ans avant la naissance, dans l'esprit de William, du personnage de Wonder Woman, le foyer Marston est secrètement composé d'une autre femme. Cette femme s'appelle Olive Byrne. Elle est beaucoup plus jeune qu'Elizabeth et William, 10 ans de moins. Et pour cause, William l'a rencontrée à l'université quand il était son professeur et elle, son élève. Loin d'être un obstacle à leur mariage, l'histoire d'amour se vit à trois. Et Olive devient un membre du foyer à part entière. De cette union tacite et pour le moins insolite dans l'Amérique puritaine de l'époque, naîtront au total 4 enfants. 2 issus d'Olive, 2 d'Elizabeth. Cette Olive Byrne, donc, a elle aussi inspiré quelques traits du personnage de Wonder Woman. Notamment, elle portait, dit-on, de larges bracelets en argent similaires à ceux dont l'héroïne se sert pour arrêter les balles. Plus intéressant encore, Olive Byrne était la nièce d'une très grande figure du féminisme, Margaret Sanger, la fondatrice du planning familial américain. Ce n'est donc pas un hasard si le thème du féminisme imprègne tout l'univers de Wonder Woman. Nos trois polyamoureux étaient tous des féministes convaincus. Leurs idéaux se retrouvent dans bien des aspects du personnage et des aventures de l'Amazone justicière. À la sortie du tout premier album dédié à Wonder Woman, elle est d'ailleurs présentée, je cite, « comme un modèle de féminité forte, libre et courageuse pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les activités et les métiers monopolisés par les hommes. » Rien d'étonnant dès lors à ce que le personnage de Wonder Woman n'ait pas pris une ride. Rien d'étonnant non plus à ce que l'on ait appris en 2016, de la bouche même de l'un des scénaristes contemporains des comics Wonder Woman, que la super-héroïne était en fait bisexuelle. On aurait pu le deviner, hein, c'est un couple à trois, deux femmes et un homme, forcément.
Oui, c'est mathématique.
Car il semblerait que ces deux modèles, dans la réalité, Elizabeth Holloway et Olive Byrne, aient également entretenu entre elles des relations amoureuses. Leur attachement était tel, d'ailleurs, qu'après la mort de William en 1947, Elizabeth et Olive ont continué à vivre sous le même toit. Là encore, la réalité s'est invitée dans la fiction.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Elizabeth Holloway Marston, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste des super-héros. Bonjour Philippe Gedge.
Bonjour.
Bonjour Philippe Gedge, vous êtes journaliste au Point, spécialiste de la pop culture et des comics. L'Amazon Wonder Woman vous accompagne, j'imagine, depuis votre plus tendre enfance?
Oui, particulièrement Stéphane, depuis la série télé bien connue des années 70 avec Linda Carter dans le rôle de Wonder Woman, qui a vraiment nourri des tas de fantasmes pré-pubères. Poste aussi d'ailleurs, série qui est revenue pas mal à la mode et dans l'air du temps avec la sortie récemment de deux films consacrés à Wonder Woman. Alors non pas avec Linda Carter, même si elle fait une petite apparition, clin d'œil, mais ces films-là ont relancé la popularité de cette série qu'on croyait un petit peu oubliée depuis les années 70. Et oui, qui m'a beaucoup accompagné quand j'étais gosse. Je me rappelle, je crois qu'elle était diffusée à l'époque sur Antenne 2, ça ne nous rajeunit pas.
Oh, non. Alors on va remonter un peu le fil du temps, Stéphane l'a raconté, le personnage de Wonder Woman apparaît dans les années 40. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il existe d'autres super-héroïnes dans les bandes dessinées américaines?
Oui, Mathieu, Wonder Woman n'est pas techniquement la première super-héroïne. Il existe déjà dans la foulée de la création de Superman, qui lui a emmené en 1938 à lancer la tendance des super-héros dans la bande dessinée aux États-Unis. Et bien, dans la foulée de ce super personnage, ça a été vraiment la ruée vers l'or dans cette industrie. Et plusieurs personnages de super-héroïnes sont apparus, même si elles n'ont pas eu l'impact de Wonder Woman. Il y en a une petite dizaine déjà qui existent, qui sont apparus entre 1938 et 1941. Donc voilà, Wonder Woman n'était pas la première.
C'est pas la première et donc il y a d'autres figures phares. Mais on le disait, Elizabeth Holloway Marston et son époux, le créateur de Wonder Woman, portaient des idées féministes.
Ouais.
Ils ont voulu créer un modèle de femme forte et indépendante, mais on peut aussi se dire que ces courbes et ces tenues sexy sont destinées pour attirer le regard masculin. C'est un personnage
assez visiblement.
Oui, c'est-à-dire que c'est un personnage paradoxal, à la fois une femme qui a besoin de personne et en même temps qui cherche à séduire les hommes.
Bah oui, Wonder Woman est un personnage paradoxal. Alors oui Et non, non, parce que quand William Marston crée ce personnage, pour lui c'est un geste politique. Il crée Wonder Woman et il la féminise en réaction à ce que lui appelle, là je cite, la masculinité glaçante des super-héros qui ont tous été créés dans la foulée de Superman. Et c'est vrai que le lectorat des comics à l'époque est majoritairement constitué de jeunes garçons. Et pour Marston, créer une Wonder Woman très féminine avec voilà une sexualisation assumée, bah c'est une sorte de déclaration d'intention en faveur d'une super-héroïne qui gouvernerait le monde. Et d'ailleurs, pour Marston, le monde se porterait bien mieux en étant gouverné par des femmes. Donc, en cela, elle est féministe, Wonder Woman, en tout cas dans la tête de son créateur. D'ailleurs, dans ses premières aventures, elle va notamment militer pour le droit des mères et des épouses à intégrer à l'époque le Women's Army Corps, qui était la division féminine de l'armée américaine. Après, en effet, il y a un courant féministe à partir de la fin des années 60 et qui va prendre de l'ampleur évidemment dans les années 70, qui va considérer que l'hypersexualisation de Wonder Woman impose aux femmes ordinaires un diktat de beauté qui est de beauté physique qui est irréaliste et qui est une sorte d'injonction assez violente à l'égard des femmes. Cette vision-là de Wonder Woman qui considère le personnage comme étant contraire au canon féministe, c'est une vision qui va contraindre notamment l'ONU à revenir sur sa décision en 2016 de choisir Wonder Woman comme ambassadeur des femmes et de la cause de l'égalité des femmes et des hommes. Cette décision va déclencher un tel tollé que l'ONU va revenir cette décision.
Alors justement, retour en 2016, cette fois, comme beaucoup de super-héros, Wonder Woman a gagné Hollywood, elle a fait son apparition sur grand écran seulement, on va dire, en 2016. Ouais. Pourquoi si tardivement, alors que le premier long-métrage de Superman est sorti en 51?
Alors, Superman, le long-métrage dont vous parlez, c'est davantage un serial. Le vrai premier long métrage de Superman, c'est celui qu'on connaît tous avec Christopher Reeve en 78. Mais vous avez raison, un premier film consacré à Wonder Woman a été très tardif puisque ça date de 2016. Pourquoi ? Eh bien, je dirais que c'est une question, je pense, de génération d'accession au poste de scénariste des femmes qui n'était pas aussi évident dans le cinéma à la fin des années 60, dans les années 70 et même dans les années 80 qu'il ne l'est aujourd'hui. Le premier Wonder Woman au cinéma a été réalisé par une femme, Patty Jenkins, et donc il aura fallu attendre, je pense, toutes les années qui ont suivi les années 2010 pour que des femmes décisionnaires à Hollywood prennent en main ce mythe-là pour le grand écran. Il faut dire aussi que Wonder Woman avait déjà fait l'objet donc de la série télé dont j'ai parlé tout à l'heure. Avant même cette série télé, il y a eu, je crois, un téléfilm en 1974 qui n'avait pas très bien marché. Avant ce téléfilm, il y avait eu aussi un projet de série sur Wonder Woman dès la fin des années 60 qui n'avait pas abouti non plus. Il y a eu également, je crois, en 2011, un autre pilote de série sur Wonder Woman calamiteux qui était produit par David E. Kelley, le créateur d'Ally McBeal. Ce pilote n'a d'ailleurs jamais été diffusé. Donc, il y avait une sorte de quand même de Shkumun associé à l'écran à Wonder Woman pendant assez longtemps, alors que Superman a fait ses preuves dès le film culte avec Christopher Reeve en 78.
Maintenant, parlons un peu de nos polyamoureuses. L'actuel auteur des comics de Wonder Woman a révélé en 2016 un nouveau point commun entre Elizabeth Holloway Marston et Wonder Woman, c'est leur bisexualité. C'est-à-dire, au fond, alors plus récemment, c'était Robin, l'acolyte de Batman, qui faisait son coming out. Le film Les Éternels, actuellement sale, qui présentait un super-héros gay. Ouais. On a l'impression que l'univers comics cherche à refléter les évolutions de notre société et l'évolution des mœurs aussi.
Oui, c'est une caractéristique quand même de ce 9e art hein, et de la bande dessinée américaine. Même dans les années 60, à l'époque, le mythique Stan Lee, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui était donc le co-créateur des Quatre Fantastiques, de Spider-Man et des X-Men, Stan Lee, qui était notoirement un démocrate bon ton, tenait à ce que certains de ses comics véhiculent des idées progressistes. Il a notamment fait passer de nombreux messages antiracistes à travers les X-Men dans les années 60. Il a co-créé avec Jack Kirby Black Panther, qui est l'un des premiers grands super-héros noirs de l'histoire. Et c'est vrai que cette tradition progressiste, elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui, avec une sorte de tendance quand même assez accélérée, très marquée, puisque les jeunes générations sont encore plus radicales, hein, on va dire, que leurs aînés. Et oui, il y a beaucoup plus de coming out, aussi bien chez Marvel que chez DC Comics. Même récemment, le fils de Clark Kent, qui est le nouveau Superman dans une des aventures de Superman publiées en ce moment aux États-Unis, le fils de Clark Kent s'est déclaré, a déclaré aussi son homosexualité. Donc oui, il y a une envie, un besoin, une tendance naturelle des comic books à refléter l'évolution des mœurs de la société.
Donc la prochaine étape, c'est justement le transgenre. C'est en tout cas la question du genre va être...
Ouais. Ils bossent là-dessus ou pas ?
Oui. Alors je me demande même s'il n'y a pas déjà un ou deux super-héros, alors soit annoncés, soit d'ores et déjà lancés en publication, qui seraient pris en charge d'ailleurs peut-être par des auteurs eux-mêmes transgenres. Alors ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il faut être gay pour écrire un super-héros gay ? C'est un débat qui fait rage aux États-Unis.
Et un super-héros polyamoureux.
Vous me choquez, Stéphane. C'est tout ce que j'ai à dire. N'allez pas trop loin.
Enfin, respectez un peu quand
ça,
même.
Je prends ça, Stéphane. Ah oui, enfin, ça,
oui. Non, ça, on est gourmands ici.
Merci beaucoup. Ça ne devrait pas tarder.
Merci beaucoup, Philippe Gage. On peut vous lire dans les pages culture du Point et sur le site Le Point Pop.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on réunit trois femmes qui ont pratiqué le polyamour. Après Alexandra Kollontai et Elizabeth Holloway Marston, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'une jeune femme qui non seulement pratique le polyamour, mais qui en plus parle librement à ses parents à la télévision.
Oui, bienvenue en 2021, Stéphane. C'est officiel, le présent est devenu fou. Surtout quand on s'appelle Willow Smith, qui est donc la fille de Will Smith, un des acteurs les plus célèbres au monde, qu'on a grandi à Beverly Hills et qu'on trouve donc tout à fait normal de parler de sa vie sentimentale et sexuelle avec sa maman dans l'émission télé de sa maman. Imaginez Stéphane, parler de votre vie sexuelle à vos parents. Imaginez s'il n'était ne serait-ce que tombé par hasard sur votre journal intime.
Samedi 24 octobre 1931, je vais voir Vanga ce soir. Espérons qu'il me sucera bien sa bouche et les plus à droite, je conviens.
Imaginez la tête de vos parents. Oui.
Ah non, mais c'est pas possible.
Pour le choc des civilisations, je ne me prononce pas. Mais pour le choc des générations, lui, c'est indéniable. À tort ou à raison, dans cette émission, on tend à révéler beaucoup de choses sur nous-mêmes. Des choses parfois très personnelles. De David, on sait par exemple désormais presque tout. Y compris où et quand il a perdu son pucelage.
C'était à Clermont-Ferrand, chez un couple de retraités.
Non, on ne veut pas savoir, Je vous le confie, en préparant ce portrait...
Bravo, David.
En préparant ce portrait de Willow Smith, sur qui vous le sentez, j'ai beaucoup de choses à raconter, en découvrant à quoi ressemble sa vie à seulement 21 ans, je n'ai pas pu m'empêcher de m'imaginer ce que pourrait potentiellement me raconter mon fils, qui est actuellement 9 ans, dans 5-6 ans. Ça m'a fait froid dans le dos. Pauvre Will Smith. Il y a 8 ans seulement, il surnommait encore sa fille Petit Haricot. Eh bien les amis... Petit Haricot a bien grandi. Elle affiche crânement sa bisexualité et son goût pour le polyamour sur les plateaux, y compris donc dans l'émission de sa propre mère et sous l'œil, c'est encore plus gratiné, de sa mamie. Plus on est de fois parlé de cul, plus on rit. Bienvenue chez les Smiths. Will est donc la fille de Will et Jada Pinkett Smith. C'est l'enfant star dans toute sa splendeur qui a grandi dans un univers où la règle, c'est grosso modo pas de règle. Chez les Smiths, l'enfant doit être libre de ses émotions, libre d'expérimenter ce que bon lui semble. Une éducation typiquement Montessori, comme chez les Castello-Lopez, où David pouvait crier à ses parents ce qu'il voulait pour le dîner.
C'est la quiche Lorraine.
Chez les Smiths, on fait de l'acrobanche sur une œuvre de Jeff Koons, on balance des œufs sur le sous-chef cuistot portoricain, on fait pipi dans les draps à Lorraine maison de la cinquième chambre d'amis. Bref, on s'amuse. Une éducation qui est largement commentée par la presse américaine ces dernières années. La presse qui n'est pas toujours tendre. Will Smith et son épouse Jada Pinkett ont-ils mal élevé leurs enfants ? C'est à cette question, on ne peut plus mesurer, que le New York Post a tenté de répondre. Je vous grille le suspense puisque je me doute que vous n'allez pas acheter le New York Post. La réponse est oui, ils ont totalement foiré l'éducation de leur gosse. Je cite le journaliste responsable de l'enquête. Tout parent raisonnable aurait honte des enfants de Will Smith. L'auteur de l'article, un certain Kyle Smith, parle de Willow Smith et de son frère Jaden Smith comme, je cite, deux enfants gâtés et terriblement narcissiques. Souvent perçus comme faisant partie d'une jeunesse californienne, je cite, sans cerveau, imbu d'elle-même et mégalo, Willow Smith a néanmoins retiré quelque chose de positif de cette éducation permissive, une facilité déconcertante à s'exprimer sur tout, sans complexe et sans peur d'être jugée. C'est ainsi qu'elle s'est donc ouverte à sa maman sur sa vie sentimentale assez mouvementée dans l'émission Red Table Talk, dont on avait parlé ici, puisque souvenez-vous, c'est dans cette émission que Jada avait annoncé à Will qu'il était peut-être une légende, mais qu'il était surtout cocu. Quelques années plus tard, c'est donc au tour de Willow de nous livrer publiquement sa vision de l'amour. Disons que tu n'es pas une personne très attirée par le sexe, mais ton partenaire l'est. Vas-tu être la personne qui dit « Juste parce que je n'ai pas ces besoins, tu ne peux pas les avoir non plus ?» Elle est peut-être pourriété, mais son propos est intéressant, écoutons la suite. Avec le polyamour, j'ai l'impression que le fondement principal est la liberté de pouvoir créer un style de relation qui vous convient et de ne pas se contenter de la monogamie, parce que c'est ce que tout le monde fait autour de vous. Continue Willow, David et Olivier commencent à aimer cette théorie. De plus, la raison principale pour laquelle les relations monogames et les futurs mariages finissent en divorce, c'est l'infidélité. Avec le polyamour,
l'infidélité n'en est plus une.
Oui,
oui, c'est bon ça. Mais messieurs, calmez-vous, car Willow précise ensuite sa pensée, je cite, « Attention, tout ça n'est pas forcément lié à un appétit sexuel irrépressible. Par exemple, moi, je ne veux pas plus de deux relations simultanées, car je vois le polyamour à travers un prisme essentiellement non sexuel. »
Oh non.
Ne soyons pas trop gourmands, l'idée est belle quand même, on verra. Ce qu'en pensent Madame Pouls et Madame Kstelop, je suis pas sûr que le polyamour passe aussi bien à Paris qu'à Los Angeles. Puisque oui, la Cité des Anges, c'est là où Willow voit le jour le 31 octobre 2000. Dès l'âge de 5 ans, elle veut faire comme papa, c'est-à-dire devenir une star. À 9 ans, elle se lance dans la musique sous le label de tonton Jay-Z. Hein, certains se font pistonner par leur tonton pour décrocher un stage en entreprise de 3e dans le Bricorama du coin. D'autres sortent un album avec Jay-Z, chacun son étoile. Merci papa, car Will Smith est un papa poule et hyper généreux. Lorsqu'elle l'accompagne à Paris pour la promotion de Men in Black 3, Willow, 11 ans alors, a droit à deux assistants pour aller dévaliser la boutique Cartier, une sorte de jouet club mais pour enfants de stars. La délicieuse enfant dévoile assez tôt un caractère que sa mère qualifie d'entier, mais que le journaliste du New York Post qualifierait lui tout simplement de chiant. Will témoigne, 90% du temps est consacré à Willow, elle a besoin de l'attention de tout le monde et tout le temps. Toutes les semaines, c'est Independence Day à la maison. Un jour, Will oublie de refermer la porte de la maison derrière lui. Le chat de Willow manque de s'échapper. À son retour, Will doit essuyer le courroux de sa fille. Elle était très en colère, elle m'a regardé des larmes aux yeux criant « Je ne peux pas croire que tu sois si irresponsable. Le moins que tu puisses faire, c'est de regarder où est le chat !» Il ajoute « Il n'y a rien de plus difficile pour un homme de supporter le regard dédaigneux d'une fille de 14 ans. » Oui, je suis heureux de vous offrir aujourd'hui une chronique cathartique. Moi qui ai passé ma vie à vouloir être Will Smith, j'ai plus du tout envie là. Il ferait presque pitié le pauvre vieux. D'autant qu'attendez, l'adolescence arrive. Cette période où votre enfant se barricade dans sa chambre et ne vous appelle plus papounet d'amour, mais...
Cocksucker.
C'est horrible. Surtout quand votre ado aime choquer. Ce que fait Willow en posant avec un homme torse nu alors qu'elle a à peine 15 ans ou en arborant un t-shirt trompe-l'œil faisant mine de dévoiler sa poitrine. Marc Jacobs adore, il l'a choisi comme égérie. Mannequin, c'est pas mal, mais bon, actrice, c'est quand même mieux. Et pour sa carrière, pas besoin de se fader des cours d'été à Lector Studio, Willow a son brave papounet.
Cocksucker.
Tu me trouverais pas un rôle dans un film? Pas un petit film d'auteur, hein, un blockbuster mondial. Bien sûr, ma chérie. Est-ce que ça te ferait plaisir de jouer dans Je suis une légende avec papa? Ouais, ok, j'aurais préféré Brad Pitt, mais ok. On la retrouvera ensuite dans la comédie musicale Little Orphan Annie, qu'aide à produire qui?
Cocksucker.
Lui-même. Mais le carton se fera en chanson avec ce titre sorti en 2010. I Whip My Hair, traduire par « Je fouette mes cheveux ». Le titre cartonne, elle est même invitée à chanter à la Garden Party de la Maison Blanche, qui était comme votre Garden Party, Stéphane, avec Barack Obama et Steve Wonder en plus. Karl Lagerfeld adore son audace et l'a choisie comme égérie Chanel. Pendant ce temps, Will Smith, plus déconnecté que jamais, tient des propos aux frontières du réel. Cela va peut-être vous étonner, mais je veux que mes enfants expérimentent le plus de problèmes possible. Sans, bien évidemment, qu'ils soient brisés, je veux qu'ils comprennent la difficulté de leur métier et du monde dur dans lequel nous vivons. Je veux qu'ils soient confrontés aux aléas de la vie. Eh bien Will, sans vouloir t'offenser, je crois que c'est un peu raté. C'est fou comme à l'espace d'une chronique, tout ce qu'on vénérait, tout ce qu'on enviait chez Will Smith s'est évanoui. Et c'est pas fini David, puisque dans sa biographie parue en novembre, Will mettait le dernier clou au cercueil de sa réputation, s'épanchant à son tour sur sa vie sexuelle mouvementée. En voici un extrait. J'ai eu des relations sexuelles avec tant de femmes, mais la sensation était si désagréable au plus profond de mon âme que j'ai développé une réaction de stress lorsque j'avais un orgasme. Parfois, je vomissais même. Voilà, Will Smith vomit après l'orgasme. Vous avez l'image, elle est gravée en nous à jamais. David de vous ama, ça fait quoi de découvrir que Will Smith a en fait une vie de merde?
Ça me fait comme des petits frissons agréables.
Merci, ça fait du bien, c'est notre revanche sur Will.
Merci beaucoup Mathieu, en tout cas vous êtes bien documenté sur la vie.
Ah bah, c'est surtout la presse américaine qui ils ont une caméra dans la maison de Will Smith. Ouais.
Ah oui, c'est fou quand même.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bah, il est l'heure de dire au revoir à nos polyamoureuses et retrouver deux garçons assez discrets hein, quand même sur leur vie sentimentale. Deux garçons très rangés je trouve.
Très rangés mais on sait pas trop ce qu'ils font. Hein. Parfois quand on les surprend en train de se boire un Viandox les yeux dans les yeux, on se dit que leurs compagnes ont peut-être du souci à se faire, mais c'est pas le sujet. Le sujet d'Olivier, c'est la pomme.
Oui, la pomme de terre.
La pomme de terre précis. Parisienne.
La pomme de terre parisienne, oui.
Je ne savais pas
et
qu'elle existait.
Et vous apportez un petit ustensile amusant. Vous allez pouvoir jouer.
Mais pourquoi vous avez apporté une pomme?
Alors parce que j'avais pas de pomme de terre, mais ça marche aussi avec une pomme.
Non mais cette émission part en vrille. Mathieu fait quelque
on
chose.
On n'a plus le budget on pour une pomme de terre.
Non mais je suis allé à notre service oui, cantine.
Vous avez demandé une pomme de terre.
Non mais il y avait une pomme. Oui, donc bon, mais ça marche tout aussi bien.
Ouais. Ça marche tout aussi bien évidemment puisqu'on est en radio. Donc ouais. C'est ça qui est bien. D'abord David Castello-Lopez nous parle du tennis, l'origine de ce sport qui n'est pas en France, Stéphane.
Le tennis, je pense que tout le monde sait que ça dérive effectivement du jeu de paume,
ah,
qui était une sorte de tennis moins bien, hein, qui se jouait en France et en Europe entre le Moyen Âge et le 19e siècle. Il y avait deux types de jeux de paume. Il y avait la longue paume et la courte paume. La longue paume, j'ai essayé de comprendre comment ça se jouait. Franchement, c'est imbitable. Il y a des similitudes avec le tennis, hein. Il y a un filet, il y a des raquettes, il y a des gens. Mais ça pouvait se jouer à 6 contre 6, par exemple. Et il y avait un aspect qui ressemblait un peu au rugby. Genre, il fallait que les adversaires ratent la balle le plus loin du filet possible parce que ça déterminait l'endroit où ils devaient se poster pour le point suivant.
Vous voyez, c'est pensé au baseball, là.
Ouais, un petit peu aussi. Enfin, c'était, franchement, j'ai pas compris, quoi. À la courte paume, en revanche, de ce que j'ai pu dire, c'était assez similaire au tennis d'aujourd'hui. Il y a eu 50 versions du jeu partout en Europe, mais en Angleterre, à la fin du 19e siècle, les règles se sont fixées à peu près sur ce qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est donc le tennis. Le premier club de tennis tel qu'on entend le sport aujourd'hui date de 1872. Alors pourquoi on appelle ça tennis ? Peut-être effectivement parce que c'est un dérivé du français « tenez », qui était ce que le serveur disait au moment d'engager la balle. « Tenez », vous voyez ? Mais en fait, il n'y a aucune certitude sur le fait que cette théorie soit la bonne. Donc la vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça s'appelle tennis. En tout cas, c'est d'Angleterre que ça vient, le tennis tel qu'on le joue aujourd'hui. Pendant longtemps, c'était un sport très chic. Et d'ailleurs, dans les mentalités, c'est resté un petit peu le cas. Vous disiez le 16e arrondissement, mais c'était vraiment un truc de la haute société, hein, Wimbledon, tout ça. Mais à partir des années 60, ça s'est un peu mainstreamé et c'est devenu un sport de masse qu'on joue partout dans le monde. Sauf qu'aujourd'hui, ce succès est remis en question.
Ah bon ?
En France, il y a 400 000 licenciés de moins qu'au milieu des années 80. Les gens qui jouent au tennis aujourd'hui, en plus, ils sont de plus en plus vieux. Et aussi, pire, les gens qui regardent le tennis sont de plus en plus vieux. Vous savez quelle est la moyenne d'âge des gens qui regardent le tennis aujourd'hui ? La moyenne.
50.
Ouais. 61 ans.
Oh là là. Non, arrêtez.
61 ans. Ah, et c'est la moyenne. C'est-à-dire
que les jeunes ne regardent pas du tout le tennis.
De moins en moins. Et donc, le tennis.
C'est le moment de Roland Garros.
Un petit peu, ouais. Mais le tennis est complètement en crise parce que si les gens cessent d'y jouer et que les gens qui le regardent meurent parce qu'ils sont vieux, eh ben, il n'y a plus rien. Vous voyez? Et donc, il y a des personnes qui cherchent à sauver la popularité du tennis. En faisant quoi? Eh bien, en changeant les règles. C'est l'idée d'un monsieur qui s'appelle Patrick Mouratoglou, que vous connaissez peut-être.
Oui, c'est l'entraîneur de Serena.
C'est le coach de Serena Williams, exactement. Et Patrick Mouratoglou, il a lancé en 2020 ce qu'il a appelé l'UTS, qui est l'Ultimate Tennis Showdown, la confrontation ultime du tennis. En français, il veut vraiment transformer le truc en truc américain. Et le but, c'est de transformer le tennis en un sport plus rapide, plus fun, de façon à ce que les jeunes s'y intéressent. C'est assez marrant. Les matchs dans l'UTS, ils sont en temps limité, comme au foot, ce qui est très pratique aussi pour la télévision, parce qu'on n'a pas l'idée de combien de temps ça va durer. Donc, vous savez exactement combien de temps ça va durer. Le temps est divisé en 4 quart-temps de 10 minutes, et on compte pas les points en faisant 15, 30, 40, ces trucs débiles. On compte les points 1, 2, 3, normal. Et celui qui a le plus de points à la fin d'un quart-temps, il remporte le quart-temps. Si vous gagnez 3 quart-temps, vous gagnez le match. Et mieux encore, le truc vraiment le plus drôle et le plus ado, c'est qu'on peut jouer des cartes comme dans les jeux de rôle, mais comme dans Yu-Gi-Oh! ou dans les trucs Pokémon, des cartes qui pénalisent votre adversaire ou au contraire
on a des renforce... cartes au début du jeu comme des jokers,
exactement comme des jokers. Chaque joueur a deux cartes par carton, et par exemple il y en a une que vous pouvez jouer qui fait que votre adversaire n'a le droit qu'à un service au lieu de deux. Il y a une autre carte où si vous gagnez le point ça compte triple, vous voyez. C'est typiquement des trucs qu'on voit dans les jeux de cartes d'adolescents. Ça a quand même séduit plein de joueurs super connus comme Richard Gasquet, j'ai du mal à prononcer son nom, Stefanos Tsitsipas par exemple. Et en plus,
il voudrait que le circuit ATP devienne ça, ou il voudrait que ce soit un sport à côté.
Il voudrait que ce soit un circuit concurrent au circuit ATP, qui ait des contrats avec la télévision et qui marche super bien. Et en plus, dernier truc qui fait que le truc est super ado, les joueurs, ils ont des surnoms officiels comme au catch, vous voyez. Richard Gasquet, c'est The Virtuoso.
Mais non,
Stefanos Tsitsipas, c'est The Greek God.
Ils s'emmerdent pas.
Matteo Berrettini, Dieu grec, merci. Ouais.
Matteo Berrettini, c'est The Hammer, vous voyez.
Le marteau.
Et voilà, et ça marche pas si mal. Il y a déjà eu 4 éditions en 2020 et 2021. On sait pas vraiment si ça va devenir ce que Mouratoglou voudrait que ce soit, c'est-à-dire vraiment un circuit concurrent et qui cartonne autant que l'ATP. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est assez sympa. Ça a peut-être sauvé le tennis, oui.
Eh ben merci beaucoup David. On lui souhaite bonne chance au tennis. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio.
Il vous remercie, Stéphane.
les vidéos.
Merci.
Sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Olivier, vous n'êtes pas venu les mains vides aujourd'hui. Vous nous parlez des pommes de terre parisiennes.
Ouais, et avec un petit atelier production historiquement vôtre, je vous ai apporté, regardez, ceci. Alors, qu'est-ce que c'est?
Mais ça, c'est une cuillère à caviar.
Eh non, c'est pas une cuillère. Oh, le non, pauvre. Non, je... C'est une cuillère à pommes parisienne. Parce que la pomme parisienne, elle est liée à l'invention de ce petit ustensile. Alors, ne me demandez pas qui l'a inventé. On n'en sait rien. On sait juste que c'est une invention qui date du 19e siècle, à une époque où on va multiplier les recettes autour de la pomme de terre.
Ça fait des tout petits morceaux, ça.
Eh oui, alors ça fait quoi?
Ça fait des billes.
Ça fait des billes. Alors, je vous ai apporté une pomme tout court, parce qu'en fait, avec cette pomme, avec cette cuillère à pomme parisienne, on peut faire des billes de plein de choses. On peut faire des billes de melon, on peut faire des billes de pommes, de tous les légumes ou de tous les fruits que vous voulez. Et je vais vous la donner et vous allez essayer de faire des billes. Vous allez voir qu'il y a une petite technique, si vous la connaissez pas, c'est plus difficile à faire qu'on le pense. Essayez d'abord.
Stéphane n'a même jamais coupé une pomme. Comment voulez-vous qu'il fasse des billes?
Alors bon, vous savez que la pomme de terre arrive en Europe au XVIe siècle, hein, mais qu'il faut attendre...
Oh, une jolie bille.
Alors, regardez, elle est pas ronde.
Elle est pas mal quand même. Oh,
elle est pas mal. Non, mais il faut qu'elle soit ronde.
Donc on n'est pas chez Ducasse, hein.
Ah, bah si, j'espère bien.
Et donc, c'est quoi votre technique?
Alors, la technique, c'est qu'il faut rentrer d'abord complètement comme ceci, la pomme. Ensuite, on tourne, on fait des petits allers et retours dans un sens puis dans l'autre. Et puis on la sort. Et là, on a une bille ronde.
D'accord.
Ah, il faut nous suivre en vidéo. Hein, sinon, ça peut prêter à confusion.
Il en existe de différentes tailles.
Ah oui, oui.
Et donc, au moment de la Révolution, la pomme de terre a vraiment connaît son essor. Elle devient extrêmement populaire. C'est à ce moment-là qu'on invente les pommes pour neuf, hein, qui sont les ancêtres de la frite, et qu'on va inventer toute une série de recettes autour de la pomme de terre. Et notamment, cette fameuse petite pomme de terre parisienne, des boules de pommes de terre, qui, à l'origine, sont rôties dans du beurre, puis roulées dans une glace de viande. Alors, une glace de viande, c'est pas de la crème glacée. Une glace de viande, c'est une réduction de différents morceaux de viande. C'est comme un fond, mais qui est réduit encore plus à consistance sirupeuse. Et on les saupoudre ensuite de persil haché. Alors, parmi toutes ces inventions à ce moment-là, il y en a une qui ressemble un petit peu. On va voir si vous connaissez vos classiques de la pomme de terre. Si vous connaissez la pomme noisette.
Je dirais que c'est de la purée ronde qu'on fait frire.
Alors c'est quelque chose qui est devenu très industriel, mais alors c'est une à l'origine c'est la pomme parisienne, mais en taille plus grosse, de la taille d'une noisette. Et c'est vrai que les industriels se sont emparés de cette recette et eux la font en faisant effectivement
de la purée
de pommes de terre avec une espèce de petite panure autour et ensuite c'est frit.
Comment
je me suis trahi.
Des pommes noisettes.
Moi j'adore les pommes dauphines.
Ouais, alors vous avez
les dauphines.
Alors vous avez les pommes dauphines, vous avez les pommes duchesses aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est que la pomme de la pomme
c'est
duchesse?
C'est moins bien, parce que la dauphine, c'était la femme du dauphin, et la duchesse,
C'est pas celle où on fait avec de la purée sur une plaque comme ça?
Exactement. Ça, c'est la pomme de terre duchesse. C'est une pomme de terre additionnée d'œufs. Et ensuite, elle est formée avec une poche à douille et cuite au four. Mmh. Alors que la pomme dauphine, c'est un mélange de purée et de pâte à choux.
Oui.
Et l'ensemble est ensuite souffle au moment de sa cuisson dans la friteuse. Alors, petite recette pour nos pommes de terre parisiennes qui accompagnent admirablement notamment toutes les viandes.
Vous les faites sauter, les pommes de terre parisiennes?
Alors, non, je les fais en deux temps, si on peut dire. Donc, avec ma petite cuillère, je fais des petites billes dans des pommes de terre à chair ferme, de manière à ce qu'elles ne s'écrasent pas au moment de la cuisson. Ensuite, je les mets à blanchir dans de l'eau bouillante pendant 4 ou 5 minutes. Ce qui va les pré-cuire. Ensuite, dans de l'huile bien chaude, évidemment, dans une poêle, on les roule bien pour cuire de manière homogène. Et à la fin, la petite astuce consiste à mettre une noisette de beurre, parce que la noisette de beurre va lui permettre de dorer.
Quand elles sont beurrées, c'est quand même...
Mais ça, il faut le beurre, on insiste toujours là-dessus, les plus grands spécialistes l'ont dit.
Certaines princesses ont besoin d'être un peu beurrées pour être délicieuses. Princesse Amandine... Pomme de terre ici.
Stéphane, j'étais l'ambassadeur de la pomme de terre.
Oui, vous avez été l'ambassadeur de beaucoup de choses.
Je disais, j'en ai soupé des pommes de terre, mais là, moi, je les aime bien beurrées, je les aime bien sautées.
Enfin, oui, vous avez décliné. Il y avait trois spots.
C'était quand ça?
Trois spots. Il y a 10 ans, 15 ans.
10 ans. Ah, oui. Il y avait un arrêt.
J'ai bien aimé cette pub.
Bref, merci beaucoup Olivier. Eh bien, on retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, c'est pour ma pomme. Je vais vous poser des questions auxquelles vous n'aurez certainement pas la réponse. Ça s'appelle la lutte finale en histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, une question pour chacun. En cas d'égalité, une dernière question pour vous départager. Il y a un chiffre à trouver, il faut s'en approcher le plus possible. Olivier, j'ignore si vous aimez les pâtes bolognaises.
J'adore.
Eh bien justement, voici une question sur Bologne. Fondée en 534 avant Jésus-Christ, il existe un dialecte bolognais d'une grande richesse. Un nouveau mot vient d'entrer au dictionnaire, c'est « umarelle », qui ça désigne un homme à la retraite qui aime regarder des travaux dans des chantiers en ayant les mains derrière le dos. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors, je vais juste vous dire avant que les pâtes bolognaises n'existent pas, en fait. Hein. C'est une dénomination française
pour ce qu'on appelle un al-ragout.
Je me devais quand même de le préciser parce que j'aime bien quand les questions sont précises aussi.
Umarelle. Ça désigne un homme qui regarde des travaux que font des autres dans des chantiers et ils ont les mains dans le dos.
Ça s'appelle aussi fonctionnaire à la ville de Paris. Mais
Vous allez vous faire des amis, déjà que j'en ai fait beaucoup.
J'en sais rien, je vais dire que non, ça doit pas être bolognais, c'est faux.
Non mais umarelle, ça existe, c'est une façon générale, ça désigne les hommes d'un certain âge ayant des femmes qui leur demandent le matin d'aller se balader pour que ce ne soient pas des retraités qui traînent en savate dans la maison.
Mais alors, c'est faux.
Moi je vous dis que c'est vrai.
Ah, donc ça s'appelle umarelle, c'est les mecs qui restent les mains dans le dos à regarder des chantiers.
Exactement.
Donc c'est vrai, bon bah aucune idée.
Il y avait une deuxième définition, c'est ça qui a son...
Non, après je complète.
Ah oui, d'accord.
En disant, voilà d'où ça vient.
Toujours aucune bonne réponse dans tous les quiz de l'émission. Pour Olivier, aujourd'hui, c'est le pire, incidemment.
Là, vous allez trouver, je suis sûr, David. Parce que
non,
ça,
c'est très très dur de dire ça, parce que si, après, si je trouve pas, j'ai l'air...
T'es encore plus la honte.
Oui, mais ça me ferait plaisir. En 1974, en France, naît le mouvement raélien. Mm-hmm. En 1995, l'organisation est officiellement considérée comme une secte. Mm-hmm. Le logo de la secte est d'un petit homme vert avec une seringue dans le bras et un parapluie dans l'autre. Il pleut dans le parapluie, c'est vrai ou c'est faux ?
Il pleut dans le parapluie.
Il pleut dans le parapluie.
J'ai déjà vu des logos comme ça, mais... Donc il pleut, il a une seringue et un parapluie, ouais. Et il pleut dans le parapluie. J'ai envie de dire oui.
Non, je me suis dit, c'est tellement nul qu'il va dire
pourquoi
non.
Pourquoi pas, c'est tellement loufoque, quelle est la réponse alors ?
Non, par contre, ils auraient dû prendre ce logo, oui, effectivement, parce que le leur est franchement de mauvais goût. C'est une étoile de David avec une croix gammée au milieu.
Mais non.
Oui.
Mais j'ai jamais vu ça.
Oui, j'ai jamais vu ça non plus.
Parce que c'est interdit maintenant.
La nullité absolue.
Mathieu Noël, restons dans les sectes.
Et Olivier Pouls fait des billes.
Il s'intéresse plus à notre jeu, il est en train de se faire des billes.
Il est en train de nous pourrir une pomme avec des billes. Alors, restons dans les sectes. En 1953, naît la première église de Scientologie. Son gourou était un ancien auteur de science-fiction, Ron Hubbard. Mm-hmm. On avait déjà entendu parler.
J'en ai même parlé.
D'ailleurs, le féminin de gourou, c'est Gourel. Vrai ou faux ?
Mais non, enfin, c'est ridicule. Enfin, c'est un piège. Gourel ?
Ça, j'aurais su, moi. Vous voyez, c'est à moi qui fais cette idée.
Bah attendez, il y en a un qui rit comme un goré, l'autre qui dit j'aurais su, donc ça laisse entendre.
Un goujou, pas un goré.
Ça laisse entendre que potentiellement c'est ça. Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Mais ouais, j'ai gagné.
Mais c'est un mot indien.
C'est goujou, ça vient du sanskrit. Ça veut dire maître.
Mais alors en quoi gourel est le fait ?
Mais gourel, on a complètement francisé le truc.
On a francisé le truc, mais ça existe. On dit le féminin de gourou, c'est gourel.
Mais David, vous ne saviez pas ?
Ah ben, moi je conteste la...
Quand vous avez dit, moi, qu'il fallait poser les questions, j'ai cru que vous voulez dire que c'était, vous étiez au courant de ces spécificités qu'on disait gourel.
Dans le sens, c'est un mot indien, donc tu peux, on peut mais pas
on
dire gourel.
On l'a féminisé.
Bon, d'accord, et en français, on dit gourel. Je vais inventer des mots.
Bravo à Mathieu Noël. Bravo Mathieu.
Putain.
Demain, fini le polyamour et retour au couple plus traditionnel, Stéphane. Mais de petits cachotiers quand même.
Oui, demain, on réunit des couples qui se sont mariés en douce. Le roi Louis XIV et Madame de Maintenon, qui se sont mariés en secret, en pleine nuit à Versailles. Puis l'actrice Jean Seberg et le romancier Romain Gary, qui, malgré une noce bien gardée, ont vu toute leur vie étalée. Et quelle vie, vous verrez.
Et moi, je vous raconte un agent secret qui s'est marié en secret, forcément, mais à Hollywood, c'est suffisamment rare pour être souligné. Je vous invite au mariage de James Bond, alias Daniel Craig, et Rachel Weisz. Pensez à mettre un beau costume, ces femmes.
Bah, comme tous les jours.
C'est vrai.
Alors, à demain, Mathieu. À demain, les amis.
À demain, Stéphane.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.